Alors, je suis l'époux de Madame Mottet Annick, qui était son papa était tanneur. Il était tanneur de 1941 à 1960, jusqu'à la fermeture de la tannerie de Sillé-le-Guillaume. C'était l'époque de Châtillon, parce qu'il y a eu à peu près 3 générations de Châtillon dans cette tannerie. L'origine remonterait vers 1850 à un monsieur Sébert, le premier tanneur, mais après on a une période qu'on a peu de renseignements. Peu de renseignements. Est-ce qu'il a été jusqu'à l'arrivée de monsieur Châtillon? On ne sait pas. Enfin, on n'a pas encore retrouvé des traces. Il y a juste un monsieur Allais qui nous a contactés récemment, à l'automne. Ce monsieur Allais, il aurait eu un grand-père à Sillé-le-Guillaume comme tanneur dans les années 1890. Mais on trouve peu de choses pour l'instant. La mairie, vous avez regardé déjà, on a déjà quelques extraits de ce qu'on a pu trouver à la mairie. Châtillon, ça, pas de problème, mais ce monsieur Allais, c'est un peu l'énigme en ce moment. Mais c'est quelque chose d'assez sérieux, puisqu'il possède des schémas de la tannerie vers 1890. Des schémas représentant les bâtiments extérieurs, qui n'ont pas beaucoup changé. Et il y a également un plan de la partie travail des bassins qui ont traité les pots. Il y a tout un plan détaillé de cette partie-là. Et c'est Monsieur Allais, ça. Alors, Monsieur Allais, on a des échanges, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, même s'il est à l'autre bout du monde, à 17 000 km, il est en Nouvelle-Zélande. C'est par le biais d'Internet qu'il a appris qu'il y avait au mois de septembre une journée patrimoine sur l'origine de la tannerie de Sillé-le-Guillaume. Et depuis, on a des contacts assez souvent. Maintenant, on déborde même. On parle de quel temps il fait là-bas, plutôt qu'autre chose. Mais en attendant, il a eu quand même. Et on a trouvé ma dernière recherche concernée où il avait habité à Sillé-le-Guillaume, ce monsieur Allais. Et il avait une adresse qui était rue de Rennes, mais c'est la rue de Rennes à Sillé, ça ne nous donne plus rien, elle a été débaptisée. On a trouvé l'origine avec Monsieur Feutry, qui a fait quand même une recherche assez poussée sur les rues de Sillé-le-Guillaume. Monsieur Feutry, il avait bien recensé que la rue de Rennes, elle avait disparu, et c'était la rue du 11 novembre 1918. Mais où habitait Monsieur Allais, le numéro 7, il est toujours là. Et d'après les précisions de Monsieur Allais, il disait ça donnait sur la place de la gare. C'est vrai, c'est dans un angle de maison qui se trouve entre la gare et la rue du 11 novembre. Et le numéro 7 du côté de la rue du 11 novembre aujourd'hui, il y a un petit jardinet côté place de la gare. Ça correspond. J'ai envoyé ça dernièrement. Il était tout content parce que j'ai fait des extraits des façades, tout ça. Lui, il était quand même rendu sur la place de la gare, hein, pour trouver le logement où avait habité ce grand-père-là. Alors là, on est là, pour l'instant, on a réussi à identifier quand même le lieu exact où il avait habité Monsieur Allais, qui était tanneur à Sillé-le-Guillaume, mais venait de Normandie apparemment. D'après les recherches qu'il a été faites par Monsieur Allais, il a fait une recherche généalogique assez poussée. Et c'est une famille qui serait venue de Normandie. Et après, il serait parti sur la Bretagne, vu les adresses qu'il m'a indiquées. Mais là, le passage de Tanner ici, on n'a rien de plus que lui. C'est quelque chose déjà d'un point de départ, mais on est un petit peu resté sur notre faim là. Parce que est-ce qu'il était responsable total de la tannerie ou est-ce qu'il avait une fonction de chef d'atelier ou des trucs comme ça? Parce que on ne sait pas. Tanner, point. Ça, c'est la chose qu'on sait. Il était tanneur. Tanneur et peintre, puisqu'il nous a envoyé des peintures des bâtiments extérieurs. Et il est resté là 5-6 ans, ou 5-6 ans, c'est tout. Hein. Je ne sais plus, mais il n'a pas été là très longtemps sur Sillé-le-Guillaume. C'est peut-être le fait là qu'on a peu de renseignements à la mairie. Mais on ne sait pas. On ne sait pas. Je regardais son. Je ne sais pas si j'ai le décor là. Sa recherche généalogique. Il nous en a donné une assez précise,
Oui,
oui, vous
oui,
l'avez,
oui.
avec tous les carrés, là, tous
Oui.
les parents, les enfants. Et il a envoyé quelque chose d'assez précis, avec une date de naissance à Sillé Guillaume. Hein. Il y en a un des Halais, il serait né le temps qu'ils étaient à Sillé Guillaume. Je ne sais pas si à l'état civil on peut le retrouver, oui, sûrement. C'est curieux. Mais c'est intéressant d'un côté qu'on ne soit pas tout trouvé d'un seul coup. Hein.
C'est vrai.
Depuis qu'on est parti sur ce sujet-là, c'est un sujet qui est intéressant à tous les niveaux, hein. Vous pas, en particulier, puisque vous êtes dans ce domaine-là. Et moi, je suis que le témoin, c'est-à-dire ma femme, elle a été élevée là, dans la maison qui fait l'angle. Mais elle est très discrète et elle tient pas qu'on a fait le patrimoine l'autre jour, au mois de septembre.
Parole.
Et que Clémence, on avait amené une peau de veau qui était tannée ici, que le monsieur Chatillon avait donné avant son départ, avant sa fermeture. Il avait donné une peau à monsieur Mottet-Henri, qui c'était mon beau-père, hein, et en disant, ça pourra servir à faire des semelles pour les chaussures des enfants. La peau, elle n'est pas été débitée, puisqu'on l'a toujours en entier. Et c'est palpable, puisque elle a été tannée, et comme elle a subi le traitement ancien au tanin, elle est imputrescible, hein, elle ne bougera jamais. C'était le tannage qui permettait cette conservation longue durée, hein, parce que là, cette peau, elle a moins 64 ans maintenant, qu'elle était tannée ici, même peut-être plus, mais elle n'a pas bougé. Hein. On la possède et on la garde pour l'instant précieusement. Parce que c'est la peau, elle parle quelque part. C'est une peau tannée, elle parle. Mon épouse, elle était dans ce quartier. C'est un quartier qui vivait un petit peu sur lui-même, parce qu'il y avait une dizaine de tanneurs qui habitaient des maisons autour. C'était un ensemble de tanneries plus des logements d'ouvriers. On les a recensés. Hein. Ça, j'avais ma belle-mère, hein, qui à une époque avait sur une photo, on avait une photo quand même, la seule qu'on a du groupe, et ma belle-mère m'avait donné les noms avant qu'elles disparaissent. Hein. Le groupe de tanneurs avec les patrons de chaque côté, qui ont là, monsieur Chatillon, et le fils est de l'autre côté, à côté du chauffeur qui est en blouse. Donc ça, c'était les noms qu'on a réussi, la seule photo qu'on a sur la tannerie. On a deux photos sur la tannerie. Celle-là, la plus intéressante, parce qu'il y a toute l'équipe de travail qui travaillait ici, et en plus, ma belle-mère m'a donné tous les noms. Tous les noms, parce que ça, elle a connu de près, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui habitaient dans le quartier, mais elle les a connus de près et elle m'a donné tous les noms. Ça, c'est une photo qui a une grosse valeur aujourd'hui, parce qu'elle est unique, que les familles, ils ont dû se la voir quand même, tous à peu près cette photo-là. Je pense que M. Chatillon avait fait faire cette photo et elle avait été distribuée à tous les présents sous cette photo. Mon beau-père, il était. Mottet-Henri. Il est rentré ici en 41. 41, il a été embauché par M. Chatillon jusqu'en 60. Il a même été maintenu jusqu'en 62 avec M. Marot qui était présent aussi. M. Marot était tanneur ici et il avait conservé deux ouvriers, deux anciens pour finir de nettoyer les bâtiments, vider le matériel qui restait, qui avait à cette époque-là. C'était très peu industrialisé, c'était la tannerie, méthode ancienne. Il n'y avait pas de machine pour dire, à part un marteau. Le marteau, il était là. Mes beaux-parents, quand ils étaient dans leur maison, ils entendaient le marteau. Je veux dire que la tannerie vivait, ça donnait le rythme de vie de l'intérieur des bâtiments. Et ce marteau était actionné par Monsieur Marot. C'est un témoignage que j'ai eu dernièrement. Et le marteau, il résonnait, mais il y avait également, de l'autre côté de la rue, il y avait plusieurs bâtiments, hein, dans le secteur qui étaient attenant à la tannerie. Le gros corps de bâtiments qui est ici, c'est la médiathèque aujourd'hui, mais il y avait également des petits bâtiments autour. Et dans un autre bâtiment autour, là, il y avait également une machine diesel qui faisait beaucoup de bruit. C'était avec un générateur électrique. Et il y avait une maison de Monsieur Francin qui était à côté. Ça résonnait, s'il paraît, autre chose que le marteau, même. C'était un bruit assez soutenu, un moteur, gros moteur. Il y en a qui. J'ai amené un monsieur qui écortait un enfant qui est témoin. Il m'a dit, je l'avais vu cette machine, ça m'a toujours impressionné. La machine diesel pour fournir du courant. Et c'était les deux machines qu'il y avait, la machine à vapeur pour actionner le marteau. Sinon, le reste, c'était du travail à la manuelle. Hein. C'était avec la main-d'œuvre du départ à la rivière, qu'on appelle le travail de rivière. Le travail de rivière, c'était les pauvres qui arrivaient des abattoirs. Et là, tout de suite, fallait les prendre, les écharner. Mon beau-père a été écharneur. Et après, là, il s'est trouvé éboureur. Alors, c'était des fonctions de la rivière, ça. C'était les premiers travaux quand les pots arrivaient des abattoirs. Pour l'instant, je n'ai pas la précision des abattoirs. Il existait bien un abattoir à Ciel-Guillaume, mais on n'a pas de précision. Il y avait un abattoir par le boulevard des Jardiniers, qui a été construit en 1910, je crois. Alors, on ne sait pas si les pots venaient de là. Apparemment, non, ils venaient de plus loin. Monsieur Talvard, que son papa a été chauffeur à la tannerie, Monsieur Talvard m'a dit qu'il allait chercher les pots beaucoup plus loin, son père. Par contre, l'écorce de chêne, il allait la chercher à Damigny-Alençon. C'était sans doute des écorces de chêne qui venaient de la forêt au-dessus d'Alençon, la forêt des Couves, au-dessus d'Alençon, c'est ça. C'est les Couves. Marmès, c'est Persaigne. Et dans le sud de la Sarthe, c'est Bercé. Ciel-Guillaume aussi, mais l'écorce, ils allaient la chercher avec le camion qu'on aperçoit sur la photo. On aperçoit un bout du camion. Et l'écorce, ils allaient la chercher à Alençon, ça c'est sûr. Après, les pots, on ne sait pas. Alors les pots, ils arrivaient d'abattoir, mais ils étaient salés, hein, parce que une peau, elle a un problème, c'est que. À putréfier très vite si on la traite pas. Parce que sur les pots, quand on est arrivé, ils étaient salés, hein, pour le conserver le temps du transport. Après, on les dessalait, et là, on était à les bourreurs et les charneurs intervenaient sur la rivière. Alors, les bourreurs, c'est celui qui enlevait le côté poêle, avec des lames assez importantes. De tanneurs, ça on les trouve dans les encyclopédies, ça y a pas de problème, mais pas sur le plan local. Sur le plan local, à part ces deux photos, c'est tout ce qu'on a comme vue. Le marteau, on n'a pas de vue. On n'a pas de vue du marteau. On a une vue dans la phase presque finale du travail du dépôt, c'était le corroyage. Corroyeur, là, il donnait une finition à la peau. C'était un travail qui. On a une photo. On n'a qu'une photo, le corroyage. Et le corroyage, là, c'était presque la phase finale, avant qu'on commercialise le cuir, parce il avait la spécialité de faire un cuir fort, qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il était assez brut. C'était après que dans les entreprises, qu'on devait faire des choses, ceintures, chaussures ou autre, je ne sais pas. Mais le cuir qui sortait là, c'était un cuir fort, qu'ils appellent. On le retrouve sur les cartons de M. Châtillon. Alors, le cuir fort, ils étaient emmenés sur Paris, apparemment aussi. Ils ramenaient tout sur Paris, une fois que le cuir était tanné définitivement et traité pour le commercialiser. La partie corroyage, la photo qu'on a, c'est à l'étage. On aperçoit quelques ouvriers, mais je n'ai pas vraiment les noms, là. À part le fils Châtillon, le patron. Et sinon, on n'a pas les noms des ouvriers. Mais il devait y avoir un monsieur Francin ou un truc comme ça, mais là, c'est pas très. C'est de profil, on n'a pas facile à identifier les personnages. Par contre, mon épouse, ils étaient à vivre avec la tannerie. Ils jouaient autour de la tannerie. Le taux de tannin, la poudre de corse de chêne qui était là, elle était appuyée sur le mur dans la rue. Et eux, les enfants, ils montaient dessus, naturellement. Et pour jouer, il se servait ça de montagne russe pour s'amuser. Et puis il y avait le monsieur Francin qui était tanneur, il osait péter des fois parce que des fois le tanin il commençait à déborder sur la route. Là, tout le quartier n'était pas goudronné, hein, c'était un quartier avec des routes empierrées, hein. C'était vraiment resté la partie goudron, elle a dû intervenir assez tard, hein. J'ai dû la connaître à partir des années 60, moi, peut-être. J'ai dû connaître la pierre, les empierrées, et la partie, les rues goudronnées autour, c'est dans les années 60, je pense. Alors, les enfants du quartier, elles n'étaient pas toutes seules, il y avait plusieurs enfants dans le quartier, ils jouaient sur ce tas de tanins. C'était un lieu de jeu. Mais ils se faisaient des fois expédier. Hein. Si, ça tannait aussi, hein, les pieds ou les mains, si vous touchez à la poudre de l'écorce de chêne, ça a tendance à donner de la couleur. C'était vraiment curieux. Alors, aussi, elle a des souvenirs, c'est que le soir, fallait aller sur les séchoirs, la partie très haute où il y a tous les volets. Et alors, souvent, ils montaient avec leur père, ma femme avec son père, pour aller fermer toutes les trappes d'aération. Parce que la nuit, souvent, la fraîcheur, c'était à éviter. Donc, pour faciliter le séchage, tous les soirs et tous les matins, ils rouvraient les trappes. Donc, Claire Marot, qui était comme ma femme dans le quartier, il se rappelle de ça. C'est par panneau, il y a une poignée qui existe encore, et on peut ouvrir ou fermer l'ensemble de lames. Ce qu'on appelle, certains appelaient ça dans le terme de tanneur, des ventelles. Le ventelle. Hein. Mais bon, ça peut, il y a des noms qui peuvent avoir été donnés qui ne sont pas forcément locaux. Hein, ce n'est pas forcément du local. C'est des noms que dans les tanneries, on utilisait. Alors, le souvenir que ma femme avait, c'était monter le soir dans les séchoirs et elle disait la chose qui était la plus importante, c'était l'odeur du cuir. Là, ça sentait bon. C'était une odeur agréable, le cuir. Que quand on était à la rivière, quand on allait des fois sur la rivière qui était le bâtiment en face, c'était moins agréable les odeurs. C'était les pots qui arrivaient avec les écharneurs qui enlevaient les restes de graisse et de viande d'un côté de pot et le côté poêle, donc on grattait les poêles, on faisait éboureur, on faisait de la bourre éventuellement qui était commercialisée. On a une facture, je crois que c'est celle-là, qui était sur Internet. Une facture. Donc c'est un bourrelier à Sèche, dans le Maine-et-Loire. Il avait acheté du cuir noir, du cuir fort sans doute. Hein. Le bourrelier, c'est celui qui faisait tous les harnachements de chevaux et les colliers pour les chevaux de trait. Parce que pour atteler et avoir un travail de force, on leur mettait un collier qui était très, très bourrelé là, et qui permettait de mettre des sangles pour tirer des charges. Là, donc, ces colliers de chevaux étaient souvent remplis de poils de tannerie qu'on avait enlevés des peaux. La bourre de la vache. Parce qu'ici, c'était des vaches, des bovins. Les peaux de bovins, hein, bovins et veaux. Celles qu'on conserve, c'est des peaux de veaux.
Okay. Dans cette histoire, parce que vous me parlez de votre femme
Qui a été élevé là, oui.
qui a été élevée là, mais vous, quand est-ce que vous êtes arrivé à Trille-Guillaume?
Dans les années 64, oui, je commençais à venir. On était jeunes, hein, on sortait sur Trille-Guillaume. Et mon épouse actuelle, elle avait un frère qui était à peu près comme moi et on travaillait ensemble. C'est comme ça qu'on s'est trouvé à venir sur Trille-Guillaume. Parce qu'on n'était pas, moi j'étais pas natif, je suis natif de la fonderie de Saint-James, sur Sarthe. Donc la fonderie, la Société Générale de Fonderie. Moi j'étais élevé à 14 ans là-bas, jusqu'à mon service militaire. Et après mon service militaire, je suis venu à Sillé, sur l'entreprise qui est sur Sillé. Et c'est là que, quand je suis venu ici, parce que j'allais me marier, et puis j'avais pris l'épouse. Voilà. Il y avait la fonderie, oui, c'était la fonderie. On faisait Saint-James, c'était une fonderie importante qui a disparu aussi. Et ils faisaient des fameux radiateurs en fonte, pas le métal.
Oui, pas ça, c'est
Ça, c'est du
difficile.
métal, ça, c'est de la tôle.
Ouais.
Les radiateurs tôle. Les nouveaux aussi, il y avait ce qu'on appelle des grille-pains, les en tôle aussi pour chauffer des pièces. C'était des radiateurs en tôle. Nous, à Saint-James, c'était la fabrication c'était une fonderie, on faisait des radiateurs. J'ai travaillé à la fabrication des radiateurs, au contrôle des usinages, des choses comme ça. C'était un autre travail. Hein. Quand je suis arrivé de mon service militaire, je connaissais mon future épouse, je savais qu'il y avait une entreprise. J'ai déclaré mon candidature à l'entreprise, j'ai été embauché aussitôt. Dans les années 60, il n'y avait pas de souci. Hein,
C'était quoi comme entreprise?
c'était fabrication de petits matériels électriques qui est devenu aujourd'hui le groupe Legrand. Au début, c'était une petite affaire montée par quelqu'un un local, un monsieur qui s'était implanté localement, qui avait commencé à faire des petites choses en plastique. Parce que c'était l'arrivée du plastique dans la partie installation électrique de maison.
Et bakélite.
Et avant, c'était la bakélite.
C'était quoi comme usine?
Là, c'était des petites choses, oui, quelques prises, des fiches. Mais c'était du basique, hein, c'était pas avec les normes qu'il y a aujourd'hui. Hein. Les broches, il n'y avait pas de chaussettes, qu'on appelle.
Bah oui, ok.
Mais la fabrication était de petits appareillages électriques. Et il y avait des prises, il y avait des petits colliers, des petits pontets à pointe qu'on appelle pour faire suivre des petites goulottes, des fils le long des murs. Il y avait plein de petites choses comme ça, des triplettes. Alors c'était la fabrication au départ qu'il y avait ici. Et quand Legrand, ils ont absorbé l'usine de Ciel-Guillaume en 1975, ils ont absorbé Ciel-Guillaume parce qu'il y avait cette partie fabrication qui rentrait dans leur catalogue. Legrand a pris le contrôle total de l'usine de Ciel-Guillaume en 75.
Bah c'est plutôt intéressant aussi, éventuellement.
Bizarrement, des amis, hein, ils étaient là l'année dernière. On savait pas, l'après-midi, j'ai dit, tiens, c'était des amis de Rouillon, du Mans. Et j'ai dit, tiens, bon, l'après-midi, je vais vous faire voir, c'était des anciens enseignants. Et j'ai dit, je vais vous faire voir là, notre fleuron à nous, la fameuse médiathèque. Alors, quand on est venu ici, et puis Clémence nous avait reçus, et puis on a parti sur des explications, on était même monté jusque dans les séchoirs, on n'était pas nombreux, on a pu monter dans les séchoirs. Mais alors ça les avait hyper intéressés, naturellement, un métier totalement disparu, avec la manière surtout qui était très ancienne, le gratter les pots à la main, c'est fini ça. Alors donc on était venu avec ce couple de Rouillon, et puis Clémence a dit, moi, j'ai rien sur cette tannerie. J'occupe des locaux, la médiathèque, et je connais, il n'y a rien. Elle avait regardé, il n'y avait aucune trace de l'histoire locale du bâtiment qui était là. Alors, c'était quand même curieux parce que le bâtiment est là depuis longtemps. Et c'est là que je vous dis, il y a une chose que on a peu de choses d'écrits ou de photos de la tannerie. On n'a rien. On n'a rien, et elle a quand même été là 120 ans à peu près, à fonctionner. Et des photos de scierie, on en trouve quelques-unes sur des ateliers de serrurerie. Il y a quelque chose des cartes postales, collection, hein, les fameuses collections. Et si vous avez l'occasion de rencontrer quelqu'un qui a une belle collection, posez-lui la question. Parce que nous, on a aucun document à ce niveau-là. Aucune carte postale locale. Sur la tannerie. Pour l'instant, je l'ai connu, moi. Elle était sur le boulevard des Jardiniers. J'habite sur le boulevard, moi. Je l'ai connu, hein, cet abattoir. Alors, j'ai connu le monsieur Jussaume, hein, qui était l'abattoir. Hein. Il habitait quasiment en face. Et l'abattoir, on a une très belle carte postale de l'intérieur, en plus. Alors, est-ce que des pots venaient de cet abattoir? Il n'y avait pas une grosse quantité, je pense. C'était un abattoir local. Il y avait sans doute un abattage pour fournir les bouchers de la région, mais les pots, est-ce que M. Chatillon prenait des pots là, peut-être, puisque c'était sur place, pourquoi pas? Mais on n'a pas de précision non plus. Monter à Paris, mais je ne sais pas. Faudrait que j'accorde un monsieur qui son papa était chauffeur, c'est lui qui montait à Paris avec son père des fois. Mais il n'habite pas si Ciel-Guillaume. Il habite à Poissy, à côté de Paris, et il a un pied-à-terre dans la région, mais là, cet hiver, il vient pas. Hein. J'ai prévu le rencontrer l'année prochaine.
Oui, à l'été.
Voilà, la belle saison.
Donc quand il vient.
Et
Ok.
il m'a donné l'histoire de la machine diesel, là. Il l'a vue, lui. Ah, il dit, j'étais jeune, moi j'étais adolescent. Il dit, ça m'a impressionné, cette machine.
Est-ce que y a,
Pas ma
enfin,
connaissance, non. À part les rhumatismes des tanneurs, qui travaillaient quand même dans un lieu humide. Il était dans un lieu humide, à la rivière surtout. Quand c'était le stade de travail, de finition, de corroyage,
oui.
là c'était déjà différent. Hein. C'était propre. Hein.
Est-ce que vous étiez déjà assis quand la tannerie a fermé?
Je venais avec le beau-frère, le futur beau-frière de l'époque. Je venais sursiller, mais je ne fréquentais pas sa sœur à cette époque-là.
Est-ce qu'il y a
Elle
eu
s'est trouvée sous le tard.
est-ce qu'il y a eu une
La deuxième photo, donc la seule photo qu'on a. L'atelier à l'étage, Cor-Royage. Travailler sur des tables.
Ok.
Et là, il y a le fils Châtillon, je crois, qui est là. C'est les deux seuls. Ça, les séchoirs, j'ai trouvé ça sur Internet. Hein. Mais
C'est le même principe.
c'est le
Oui.
même principe. Hein. C'était des suspendre les pots, les unes à côté des autres, et les volets qu'on fermait tous les soirs et qu'on ouvrait le matin.
Et vous savez pourquoi elle a fermé cette tannerie?
Tout simplement parce qu'elle n'était pas reconvertie avec du matériel. Hein. C'était trop manuel, trop de plus-value manuelle, sans doute, hein, des ouvriers. Hein. Parce que les machines, après, aujourd'hui, il y a des tanneries avec des machines, hein, tout simplement. Quand il engage la peau, ça enlève les restes de viande, de graisse, il passe de l'autre côté, ça enlève la bourre. Il y a des machines. Le marteau, c'est pareil, c'est des machines. Hein. Il y avait quand même un marteau, quand même, là. C'était un des seuls matériels
Industriel, un peu.
industriels. Un peu le début de l'industrie. C'était un marteau. Un marteau, c'est à peu près ça.
Ok.
C'était un plot comme ça qui tapait. Et Monsieur Marot, qui était employé là, et il engageait la peau et puis il la déplaçait. Il passait un certain temps avant de passer la surface totale de la peau. Hein. Alors ça lui donnait de la consistance et ça diminuait l'épaisseur, mais ça donnait une consistance au cuir. Et Monsieur Marot, qui était là, donc Claire, qui est encore une des filles de tanneur, elle a des gros soucis de santé. Bon, les témoignages. Les témoignages, il y en a pas, ça va être clair. Hein. Il y a eu une dame qui a disparu il n'y a pas très longtemps à Sillé. C'était une fille de tanneur aussi, mais elle est disparue. Les filles, les enfants, hein, ils sont dans l'âge certain aujourd'hui. Il y en a qui disparaissent. Hein. Et bon, mon épouse, c'est dans les jeunes, là, quand même. Et elle est hors de ce monde, heureusement pour nous. Et Claire aussi. Et Monsieur Talvar aussi. C'est les trois personnes qui actuellement permettent encore de trouver des renseignements. Alors le ruban est dans la rue du ruban, mais il est complètement canalisé et il n'est pas visible. Et on le voit toute la traversée de Sillé-Guillaume. Hein. Vous avez fait une journée très, très intéressante aussi. Toute la traversée de Sillé-Guillaume et les souterraines.
Mais à l'époque, pardon,
Vas-y.
à l'époque de la tannerie,
Il y avait ça
du coup,
devait
il y a un endroit où
ça devait
ressortait
ça ressortait, ben oui, pour
pour
alimenter les
faire le
bassins. Hein.
travail.
Parce que dans la cour, il y avait des bassins. Dans la partie bâtiment, là, ce qu'on appelle le bâtiment là, c'était acheté on a trouvé ça hein, à la mairie, hein, 1890, hein, il y a une extension là. Donc là, il y avait un lavoir. C'est le lavoir de tout le quartier aussi. Les femmes de tanneurs, ils venaient laver leur linge. C'est la place du lavoir aujourd'hui, mais il n'y a plus de lavoir. Donc l'eau devait apparaître en surface, c'est sûr. La rue du Ruban alimentait le lavoir, alimentait la rivière. Il y avait sûrement des sortes de canalisations à l'air libre qu'on devait plus ou moins ouvrir pour alimenter les bassins ou pour le pour les peaux, hein, parce que le travail de rivière, ça demandait beaucoup d'eau. Hein, beaucoup d'eau. Ça, c'est un plan que j'ai fait dernièrement, puis avec les renseignements de mon épouse, hein, naturellement, pour situer les maisons qui étaient occupées par des tanneurs. Et sur un carton, on voyait rue, Grand Rue, 19 Grand Rue à Ciel-Guillaume. Alors, 19 Grand Rue à Ciel-Guillaume, ça ne donnait plus rien.
Okay.
Et les Grands Rues, c'est toujours des rues qu'on retrouve dans les bourgs anciens. Partout, vous trouvez une Grand Rue. C'est à l'époque que le village s'est développé. La rue principale, on l'appelait la Grand Rue. Vous en avez une à Sablé, vous en avez une partout, hein, au Mans aussi. C'était le début de développement. La première rue, Grand Rue, elle était là. C'était le débouché de par Saint-Rémy. On venait du Mans par Saint-Rémy. Hein. Et arrivé en bas, là, il y avait la Grand Rue qui montait jusqu'à la place Saint-Étienne. Et la partie basse de la Grand Rue a été débaptisée et elle s'appelle rue du Docteur Touchard aujourd'hui. Et c'est pareil, c'est avec. Ouais. Ben là, on est stoppé autour de 1850. Hein. On a encore des choses peut-être à retrouver à la mairie avec Mélanie, mais il faut y passer du temps. Hein.
1850.
Oui, et puis il y a plein la fameuse période qu'on est un petit peu dans l'inconnu. Hein. Et qu'on essaye d'avoir plus de renseignements avec ce monsieur qui a eu son grand-père, qui était né à Sillé, et son arrière-grand-père, tanneur. Mais, c'était pas hier. Ben, c'était des bâtiments qui étaient comme imposants. Ça, c'est le principal bâtiment est comme imposant. Et c'était fermé, il n'y avait rien dedans. Il y a eu des tentatives de petits ateliers de ceci, des petits ateliers de cela, ça n'a pas perduré. On avait même, à cette époque-là, on avait démoli le lavoir qui était magnifique pour faire un parking. Et c'est ma belle-mère, elle a été à laver longtemps ici. Hein. Moi, je l'ai connue à l'avenir. Ils avaient une chaudière et tout, ils avaient un bâtiment assez important, hein. Il y avait des bassins. Et il y avait des endroits où ils pouvaient avoir leur chaudière à eux pour chauffer faire bouillir le linge. Et l'eau, et ça venait du ruban aussi, c'était de l'eau qui était déviée plus ou moins suivant le. Bon, quand le bassin était propre puis rempli d'eau, ils pouvaient laver un certain temps dedans. Mais c'est un lavoir qui a été rasé à l'époque que le bâtiment tannerie était à l'abandon. Donc la ville, elle l'avait acquis et elle a essayé de louer à des petits industriels, mais il y en a eu deux ou trois hein, qui ont essayé, mais ça n'a pas débuté.